à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Carrément Immo sur Radio Immo. Je suis ravie de vous retrouver. Vous le savez, Carrément Immo, c'est l'émission dans laquelle je reçois deux experts au regard complémentaire qui viennent parler d'un sujet bien précis. Et aujourd'hui, on va parler d'un impôt que tous les propriétaires connaissent, la taxe foncière. Oui, parfois elle est douloureuse, elle augmente, elle pèse lourd dans les budgets et surtout elle reste souvent difficile à comprendre. Comment est-elle calculée? Pourquoi certains propriétaires ont le sentiment de toujours payer plus et plus et plus? Peut-on repérer des erreurs? Est-ce que cette taxe foncière devient aujourd'hui un vrai sujet dans une vente, dans un achat, dans un investissement immobilier? Pour en parler justement, je reçois Maître Belin, Manon Belin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice d'Orca.tax. Vous allez nous présenter d'ailleurs Orca.tax et vous êtes également avocate fiscaliste. Vous êtes donc spécialisée en fiscalité locale. Et Guillaume Verlet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'agence, donc d'agence immobilière chez Keller Williams. Et donc, vous allez nous donner le point de vue terrain. C'est vrai que c'est important d'avoir le retour des propriétaires. On va comprendre donc d'un côté la fiscalité avec Maître Belin et puis de l'autre côté les attentes des Français, les attentes des propriétaires, les questions des propriétaires. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Manon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement comment ça se construit une taxe foncière ?
La taxe foncière est basée sur une valeur locative qui date des années 70. Donc, quand on dit qu'elle date des années 70, le calcul date des années 70 et les données qui servent au calcul datent de l'année de construction de votre bien. Donc ça peut dater d'il y a 10 ans, d'il y a 50 ans ou de l'année dernière.
D'accord, donc ça veut dire quand c'est un immeuble qui est tout récent?
Tout à fait. En fait, c'est des déclarations, ce qu'on appelle déclarations H, qui sont faites au moment de la construction, de l'achèvement des travaux, qui permettent de transmettre à l'administration fiscale tous les éléments nécessaires au calcul de la taxe foncière. Et le problème, c'est que ces éléments ne sont jamais mis à jour, puisque les contribuables ne savent pas qu'ils peuvent être mis à jour.
D'accord.
Voilà.
On ne sait pas, donc c'est pas mis à jour.
Tout à fait.
Alors, concrètement, comment fonctionne le calcul? Est-ce qu'on peut détailler un petit peu? Est-ce qu'on peut rendre ça simple? Parce que j'imagine que c'est un peu plus complexe.
On peut rendre ça simple. D'abord, on prend la surface. Alors, c'est une surface pas carrée, mais une surface mur à mur, qu'on multiplie par différents coefficients dans un premier temps. Donc, on a un coefficient d'entretien. Donc, c'est l'état d'entretien de votre bien, l'état d'entretien du gros œuvre. Si vous devez changer une ampoule ou repeindre un mur, ça ne pourra pas faire baisser ce coefficient d'entretien. Là, on a un premier vrai problème majeur sur ce coefficient, puisque l'administration, lorsque vous déclarez la construction de votre bien, le fixe au plus haut, puisque c'est un bien neuf quand vous déclarez. Donc, elle ne vous demande même pas dans la déclaration de remplir l'état d'entretien, puisque c'est neuf. Sauf que les logements évoluent avec le temps, pas forcément favorablement. Il y a des rénovations, des très belles rénovations qui sont faites, mais il y a aussi parfois la vétusté qui s'empare du bien. Et dans ce cas-là, ce n'est pas pris en compte. Si vous avez un affaissement de terrain, des fissures dans les murs, une toiture défectueuse, ce n'est pas pris en compte, puisque si vous ne le dites pas à l'administration, elle ne peut pas être au courant et elle ne peut pas modifier le calcul de votre taxe foncière à la baisse. Donc pour revenir sur ce qu'on fait avec Orca.tax, en fait, ce qu'on fait, c'est une réelle mise à jour de ces informations en sécurisant le propriétaire sur l'impact que va avoir cette mise à jour. Parce que parfois, on a des propriétaires qui vont donner des informations à l'administration fiscale en se disant qu'ils vont faire une bonne affaire et qui se retrouvent avec une taxe foncière plus élevée. Parce que les erreurs dues à la vétusté vont dans les deux sens. Vont dans le sens d'une surévaluation, très très souvent. La majorité des cas sont en surévaluation, mais une bonne partie est aussi en sous-évaluation.
Qu'est-ce qu'il faut regarder justement en premier quand on reçoit sa taxe foncière?
Les contribuables vont d'abord regarder le taux, puisqu'on a le taux N-1 et le taux N, donc on va faire une comparaison de voir si ça a évolué ou pas. Et après, on a un chiffre qui est une base, mais en fait qui ne correspond à rien. Enfin, qui correspond à quelque chose, puisque c'est le résultat d'un calcul. Mais pour la personne, ça peut être 3354 pour un appart de 100 mètres carrés, mais ne sait absolument pas à quoi ça correspond.
Oui.
Et en fait, pour comprendre ça, il faut aller demander soi-même, puisqu'elle n'est pas distribuée automatiquement, il faut aller demander la fiche d'évaluation pour avoir le détail du calcul de la taxe foncière. Et c'est là qu'on peut se rendre compte des erreurs. Mais attention, ce n'est pas non plus très facile à lire comme fiche. Donc c'est pour ça qu'on est là, qu'on a créé une plateforme qui permet à tout le monde d'accéder à cette vérification de taxe foncière à un coût très accessible, au lieu de faire des erreurs de compréhension ou de divulguer des informations qu'on n'aurait pas eu envie de donner à l'administration fiscale.
Oui, bien sûr. Guillaume, c'est vrai que sur le terrain, bon, on entend de plus en plus les propriétaires se plaindre de la taxe foncière. J'imagine que vous me le confirmez.
Alors, ce n'est pas vraiment la plainte de la taxe foncière.
L'augmentation
de la taxe foncière, c'est un point sur lequel ils appuient, sur lequel ils se renseignent, sur lequel ils font attention aujourd'hui à absolument tous les coûts qui sont inhérents à l'achat d'un bien. Donc, la taxe foncière en fait partie, ouais, forcément. Et donc, c'est un calcul qui rentre également en ligne de compte. Mais c'est pas, pour l'instant, il n'y a pas encore de plainte au sens premier du terme.
Est-ce que les vos clients comprennent la taxe foncière ? Est-ce que vous avez le sentiment que ça reste quand même assez opaque pour eux ?
Alors, dans la plupart des cas, ils ne comprennent pas. Ils ne savent même pas à quoi ça correspond. Les agents immobiliers ne sont pas des fiscalistes et ne savent pas l'expliquer. Donc, je leur demande de ne pas le faire. Ouais. En revanche, on travaille avec de nombreux partenaires, quels que soient les réseaux d'immobilier. Et chez nous, en tout cas, on oriente nos clients vers des professionnels qui sont capables d'expliquer sans faire d'erreur. Parce qu'on a tous quelques petites bases en fiscalité, mais se prétendre fiscaliste,
oui,
on ne peut pas le faire.
Ah oui.
Donc, chacun reste, ouais, à sa place. Et c'est comme ça que le monde se portera mieux au niveau de l'immobilier, tout du moins.
Mais du coup, vous constatez que les propriétaires en parlent de plus en plus ou les acquéreurs en parlent de plus en plus ?
Les acquéreurs en parlent de plus en plus. Les propriétaires ne nous en parlent pas, puisque pour eux, c'est quelque chose qui est rentré dans leurs habitudes de propriétaires. En revanche, là où ça rentre vraiment en ligne de compte, c'est chez le primo-accédant.
Chez le primo-accédant, c'est ceux qui achètent pour la première fois, qui deviennent leurs propriétaires.
Exactement, qui font leurs premiers achats. Chez le primo-accédant, ils se disent j'achète un appartement, mais ils savent pas tout ce qui va se passer autour. L'augmentation des taux, à quoi ça correspond. Les frais de notaire, à quoi ça correspond. La taxe d'habitation, bien entendu. Donc, c'est un point qu'ils connaissent pas du tout et il faut leur expliquer qu'il y a ça qui vient en plus. Chez les primo-accédants, on voit deux catégories. Ceux qui achètent dans le marché de l'ancien et ceux qui achètent dans le marché du neuf. Pour aider ceux qui sont dans le marché du neuf, quand ils font une demande d'exonération, ils ont une exonération de taxe foncière pendant 2 ans. Mais c'est que pendant 2 ans. En revanche, dans l'ancien, un primo-accédant ne va pas avoir ce genre d'aide. Donc, c'est encore quelque chose qui vient s'ajouter à leur acquisition. Et c'est dans ce cas-là où, forcément, ils s'intéressent beaucoup à tout ce qui va autour de leur acquisition. Donc, la taxe foncière, les charges, c'est toutes ces petites... ces petites additions qui font qu'ils regardent absolument tout.
Oui. Ouais, et puis, il y a de la pédagogie à faire, j'imagine, en tant que professionnel de l'immobilier, quand vous accompagnez les primo-accédants.
Pour tout le monde.
Ouais.
Ce n'est que de la pédagogie.
C'est vrai que la taxe foncière augmente. Alors, beaucoup de propriétaires le disent, pensent immédiatement à leur commune. Pourquoi la taxe foncière augmente ?
Alors, on parle toujours des taux. Donc ça, c'est la partie très visible de l'iceberg. D'ailleurs, je pense qu'on va avoir une belle vague d'augmentation. Les nouveaux maires ayant été élus, on a eu une petite accalmie ces dernières années. Mais si on prend l'augmentation des taux en 2020, lors des derniers mandats municipaux, je pense qu'on va voir la même chose maintenant et que ça ne va pas faire rire beaucoup
donc,
de monde.
Les maires freinaient l'augmentation pour se faire réélire. Et
bien
sûr. Ils sont réélus, ça y est, mais on
a qu'à regarder l'historique. Il se passe toujours la même chose. Donc là, on s'attend à une belle vague.
Il y a que, je crois, Éric Ciotti à Nice qui a décidé de ne pas l'augmenter.
Tout à fait. En contrepartie d'une réduction des dépenses.
Ouais.
Voilà, si ça peut inspirer certains
d'autres maires,
pourquoi pas.
Voilà.
Mais on a aussi une revalorisation qui touche de manière uniforme tous les logements français. C'est la revalorisation des valeurs locatives qui est faite nationalement chaque année. C'est basé sur l'inflation. Donc sur les dernières années, sur les 5 dernières années, rien qu'avec ça, on a pris 17,2%. Tout le monde. Que vous soyez à Paris, à Nice, à Lyon ou dans un petit village français,
c'est exactement la même chose. Donc 17% d'augmentation que pour
cela. Tout à fait.
Sur 5 ans.
Tout à fait.
Donc ça, c'est la première raison. Et après, les communes choisissent ou non de...
C'est ça, d'augmenter les taux. Donc ça fait une double augmentation. Et on va dire que la plus injuste, c'est peut-être... c'est peut-être l'inflation parce qu'elle touche vraiment de manière uniforme. Qu'on ait voté pour telle maire ou telle maire, ça nous arrivera forcément. Qu'on habite dans les dom-toms ou en France métropolitaine, ça nous arrivera.
Mmh. On a vu qu'il y avait dans certaines villes la taxe foncière qui avait vraiment explosé. Vous aviez en tête les trois villes où ça a le plus explosé ?
Oui, Le Mans.
Il y avait Rennes dedans ?
Non. Le Mans, le Nancy Mans, ouais. Et Limoges.
Limoges, c'est ça, ouais.
Ouais. On a des plus, plus de 110% ouais. En 5 ans. Donc c'est absolument énorme et ça fait des vrais écarts sur les taxes foncières. Et bon, après, nous, de notre côté, puisqu'on a nos clients viennent faire la démarche de contrôler leurs taxes foncières et souvent la contester, on a vraiment des contribuables qui en ont marre. C'est plus gérable.
Est-ce que certains clients choisissent une ville limitrophe pour éviter... Par exemple, là, on pense à Limoges. Je crois qu'elle a augmenté de plus de 100%.
Ouais, c'est ça.
Est-ce qu'il y a des clients qui disent bah, « Tiens, je vais habiter juste à côté, dans la commune juste à côté, parce que la taxe foncière... » Est-ce qu'on commence à voir ça ou pas ?
Je ne peux pas vous répondre. Parce que notre rayonnement est sur l'ouest parisien, sur Boulogne.
Bah, sur Paris,
Paris 16,
ça, ça peut être...
Sur Saint-Cloud, Neuilly, Levallois. Et ce n'est pas la priorité des acquéreurs. Ils veulent avant tout un lieu.
D'accord.
Donc, quand on regarde vraiment...
Bon, c'est rassurant alors de dire ça.
Bah, pour nous, en tout cas, ça l'est, parce que c'est mon marché.
Ouais.
C'est celui que je connais. Je ne peux pas vous parler du marché de Limoges, de Rennes.
Mais à Paris, en tout cas, la taxe foncière, c'est vrai qu'elle a augmenté de plus de 52% à Paris. Il n'y a pas des clients qui vous ont dit bah non, moi, je vais habiter, je sais pas, à Nières, parce que...
C'est pas à cause de la taxe foncière.
C'est pas à cause de la taxe
foncière. Quand ils ont ça, c'est pas à cause de la taxe foncière. Pour la majorité de nos clients, demandent un secteur. Ils veulent Paris. Et ensuite, ils ont une zone de repli qui va être soit ici les Moulineaux, soit Boulogne, soit Saint-Cloud, soit Suresnes, soit Puteaux. Et pour ceux qui voulaient habiter dans le 17e, par exemple, Levallois. Et si Levallois, ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils trouvent à Levallois, ils se rabattent sur Asnières. C'est cet exemple-là. Mais aujourd'hui, la taxe foncière n'entre pas directement en ligne de compte. Après, ils vont essayer d'avoir des abattements, ils vont essayer de trouver des subterfuges. Mais c'est pas la... Ça ne rentre pas encore en priorité dans la recherche du bien.
Mmh. C'est vrai que vous accompagnez essentiellement pour l'instant des professionnels ou des particuliers ?
Orca Pointax, c'est pour les particuliers. C'est plutôt pour les personnes qui ont jusqu'à une vingtaine de biens, puisque ça repose quand même sur un investissement personnel, de la configuration manuelle bien par bien. Mais on a, au cabinet d'avocats, on accompagne beaucoup de grosses foncières, des bailleurs sociaux qui ont des énormes parcs à travailler. Et donc, on peut les accompagner sur tous ces sujets-là.
Et ça prend combien de temps, un accompagnement, justement, pour...
Alors, nos délais dépendent de l'administration fiscale.
Parce qu'il faut faire la demande, du coup, du papier là, qui explique comment...
Donc, l'administration a un mois pour nous envoyer ce papier. Si au bout d'un mois, elle ne nous l'a pas envoyé, on saisit la commission d'accès aux documents administratifs, puisque c'est une obligation légale de fournir les documents qui justifient le calcul de votre impôt dans le mois. Et ensuite, une fois qu'on a ça, la plateforme peut traiter de manière quasiment instantanée, votre dossier. Et vous fournir un dossier de réclamation. Et là, à partir du moment où vous déposez sur votre messagerie ImpôtGouv le dossier de réclamation qu'Orca Pointax a concocté pour vous, l'administration fiscale a 6 mois pour répondre.
D'accord. Et en général, qu'est-ce qu'elle répond ?
En termes de sens de la décision
En général, c'est une décision
En général, oui. Si vous avez apporté tous les documents justificatifs, en fait, il ne faut vraiment pas voir ça comme un... Ça s'appelle réclamation contentieuse, mais ce n'est pas contentieux. C'est vraiment on demande la mise à jour. C'est-à-dire que s'il y a une erreur de surface, on donne le relevé d'un géomètre qui va justifier que la surface est mauvaise. Si on demande un changement du coefficient d'entretien, on envoie des photos, des rapports d'experts. C'est des preuves, en fait, objectives. Ça s'appelle d'ailleurs juridiquement comme ça, c'est le système de preuve objective. Donc on peut justifier par tout moyen la baisse de notre taxe foncière. Si là-dessus on est carré, nous on donne toutes les indications au contribuable pour que son dossier passe. S'il a mis les bonnes pièces justificatives, il n'y a pas de souci à se faire. On a quelques administrations un peu récalcitrantes qui vont être de mauvaise foi. Et dans ce cas-là, on a encore des recours, le conciliateur fiscal, voire le tribunal administratif. Mais c'est rare qu'on en arrive là quand même pour.
C'est assez rare.
Pour des dossiers, ouais. Des petits dossiers.
Oui, donc c'est une mise à jour. C'est pas un contentieux. Ça s'appelle contentieux, mais c'est une mise à jour.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une information très intéressante, c'est qu'en 1970, quand ils ont créé la loi, il était prévu en dernière ligne de l'article instaurant la taxe foncière une mise à jour triennale. Quand on fait version suivante sur Légifrance, donc le site qui nous donne toutes les lois, on voit qu'à un moment donné, cette phrase a juste disparu. Qu'elle a dû être supprimée lors d'une loi de finances et on a supprimé complètement l'idée d'une mise à jour de ces données.
C'est intéressant.
C'est très intéressant. Et ça explique que 56 ans après, on se retrouve toujours avec les mêmes bases sans mise à jour.
Et ça devait être mis à jour 3 fois par an. Tous les 3 ans.
Tous les 3 ans, pardon. Et ça ne l'est pas. Et donc maintenant, ils mettent à jour avec cette revalorisation nationale grâce à laquelle on a pris 17% dans la figure depuis 5 ans. Mm. Voilà. Donc maintenant, on attend la réforme et c'est l'Arlésienne.
Et alors, ce serait quand cette réforme?
Maintenant, c'est 2031.
D'accord.
Donc on a eu 2026, 2028, 2031 avant des dates antérieures. Et à mon avis, aujourd'hui, il y a un gros manque de clarté sur... ils ne savent pas où ils mettent réellement les pieds. Parce qu'en fait, on est à un tel niveau de vétusté des données qu'ils ont besoin de savoir, au niveau du gouvernement, quel va être l'impact de cette mise à jour. Et aujourd'hui, ils savent, d'une part, que ça va être brutal pour beaucoup de propriétaires, parce qu'à Paris, on parle d'augmentation de la taxe foncière, mais au final, par rapport au prix de l'immobilier à Paris... La taxe foncière ne représente pas grand-chose. C'est peut-être pour ça que vos clients se plaignent moins, puisque c'est des prix d'acquisition très, très chers et des taux de taxe foncière et des bases qui sont complètement décorrélées du marché aujourd'hui. Ça a beaucoup évolué. J'ai pu étudier les écarts de tarification 1970 entre des banlieues du 93 et des beaux quartiers de Paris 16e, c'est pas du tout proportionnel avec la différence du prix de l'immobilier aujourd'hui. Ouais. Donc il y a des vrais écarts qui se sont creusés, donc des gens qui payent beaucoup trop cher, des gens qui payent pas assez cher, on s'entend, mais pas proportionnellement au prix de l'immobilier. Et je trouve en ça le système américain très bien fait, puisqu'il est basé sur la valeur de votre
du bien. Donc ça veut dire que c'est plus cher pour les biens qui coûtent plus cher et moins cher quand le bien est moins cher.
Ça suit l'évolution et donc il y a une forme de proportionnalité, alors que quand on voit dans les dom-tom que les taux de taxes foncières, parce qu'à Paris on est à 20,5, dans les dom-tom on dépasse les 80% en termes de taux dans certaines villes.
Ah oui.
Et dans les dom-tom qui sont déjà à l'abandon et qui n'ont pas des services publics... à la hauteur. Donc, il y a des vrais écarts qui sont creusés. Et je pense que c'est plus un problème d'équité aujourd'hui qu'il faut résoudre.
Mmh. C'est marrant. C'est vrai qu'on ne pense pas à tout ça. Hein. Est-ce que c'est même en tant que citoyen, même quand on paye ses impôts en tant que propriétaire, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. C'est intéressant. J'imagine que ce n'est pas des questions qu'on vous pose tous les jours non plus.
Effectivement.
Il n'y a pas ce que vous dites que les professionnels sont quand même un petit peu formés, mais bon. Ils ne sont pas des avocats fiscalistes, certes, mais ils sont quand même un petit peu formés. Est-ce que c'est une question qui... Je sais pas, est-ce que vous avez des questions, j'imagine pas aussi pointues sur la taxe foncière, mais...
Pas aussi pointues, mais ça arrive qu'on ait ces questions lorsqu'on a des investisseurs particuliers qui, eux, souhaitent investir.
Ouais.
Et là, pour le coup, encore une fois, les calculs tout, et une taxe foncière trop importante...
Ça vient grignoter leur marge, quoi.
Exactement. Et quand ils font des emprunts pour financer leurs biens, qu'ils comptent sur les loyers pour pouvoir les financer le bien également, ça devient dur pour eux. Et puis, ils se rendent compte que parfois, ça ne vaut pas le coup de le faire, que ça leur coûte de l'argent. Alors que, bien sûr, au début, quand ils font ça, c'est pour en gagner. Hein. C'est pour en gagner, mais également pour offrir du logement. Parce qu'on est, y a un gros manque de logement aujourd'hui en France. Les promoteurs construisent de moins en moins parce qu'il y a moins de permis de construire. Et lorsqu'on voit tous ces coûts s'ajouter et cette taxe d'habitation en plus qui s'additionne aux coûts ces bailleurs privés, ça donne plus envie de le faire. Et quand ces bailleurs privés n'arrivent pas à louer leur appartement, qui sont également taxés parce qu'il y a une taxe de non-occupation des biens, ça vient s'additionner à tout. Et donc, aujourd'hui, beaucoup remettent leurs biens en vente.
Ça décourage.
Le bailleur privé, aujourd'hui, est très découragé.
Ouais.
Parce que entre le...
On le décourage, l'État le décourage.
Il est découragé. Il y a les DPE, la loi climat, Il y a ces taxes d'habitation, il y a les taux, il y a les... Tout vient lui dire, bah non, fais pas ça, ça sert à rien. Et en fait, ils s'en rendent compte et de moins en moins de personnes maintenant investissent pour en privé.
Ça, vous vous en rendez compte? Vous avez des chiffres sur la part des investisseurs? Elle est en baisse, donc?
Alors, elle est en baisse.
Surtout depuis la fin du Pinel?
Depuis la fin... Ah, le Pinel, encore, c'était
après,
quelque chose d'un peu particulier.
Dans la région Île-de-France, il n'y en a pas tant que ça.
Dans la région Île-de-France?
En Paris, en tout cas, il n'y en a pas.
À Paris,
il y en a un petit peu.
Il y en a un petit peu, mais c'est dans des quartiers, c'est dans les arrondissements, dans le 20e, dans le 18e.
Là où on peut construire, quoi.
Exactement, parce que le coût du foncier est tellement élevé dans Paris, aujourd'hui, ce n'est pas rentable pour un promoteur non plus de raser, de construire, parce qu'on a vu des prix sur un immeuble dans le 15e qui devait se faire, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, qui devait se faire, mais il y avait certains appartements où on était à 50 000 euros du mètre carré pour du logement neuf. Il faut quand même revenir sur terre. Donc, on est face à la Tour Eiffel, on est sur la Seine.
Mais on se croirait à Monaco, quoi.
Non, Monaco, c'est beaucoup
c'est
plus cher.
C'est encore plus cher, oui.
Monaco, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Mais voilà, aujourd'hui, il faut Paris... Dans le neuf, c'est quasiment intouchable. Quand on parle des foyers également qui veulent investir dans de l'immobilier, eh ben, il faut avoir des revenus mais plus que conséquents. On avait un couple de médecins il y a un an qui vendait son appartement, un couple de médecins qui sont encore en activité à Saint-Cloud, qui travaillent très bien. Et quand on leur dit aujourd'hui, avec vos revenus, vous ne pourrez pas acheter votre appartement au prix auquel vous le vendez, en fait, les vendeurs veulent des prix trop hauts aujourd'hui et acheter quand ils veulent revendre, c'est pour acheter autre chose. Ils veulent acheter au prix d'aujourd'hui, mais avec les prix d'hier et vendre au prix d'hier. Donc aujourd'hui, il faut remettre le marché sur la bonne ligne, de savoir que on peut plus s'enflammer sur les prix. Que c'est les acquéreurs qui font la loi et que toutes ces petites additions de coûts vient faire réfléchir pour une acquisition.
Et laisser respirer les propriétaires.
Ouais.
Exact. Il faut laisser respirer les propriétaires également.
C'est peut-être la meilleure idée.
Un petit mot peut-être pour avant de finir sur le Jeanbrun, le dispositif Jeanbrun. C'est quoi votre avis dessus?
Faut le voir à l'usage.
Voilà, ça a commencé. Bon, certains promoteurs me disent que ça a permis d'écouler des stocks qui ne se vendaient pas.
Oui,
en tout cas pour le neuf, hein, pas pour
l'ancien.
Bah,
pour le neuf, ils seront obligés de baisser les prix, mais il faut. C'est trop récent encore pour faire.
Pour avoir du recul.
Ouais, c'est beaucoup trop récent. On peut voir sur le Pinel aujourd'hui ce qui s'est passé, ce que ça a fait, mais pas encore sur le Jeanbrun. C'est trop, trop récent.
Concernant. Non, ça ne vous impacte pas, je pense, le dispositif Jeanbrun.
Pas l'expertise pour répondre à cette question.
Mais en tout cas, ça va peut-être vous ramener des clients, parce que si ça relance l'investissement, peut-être que des investisseurs viendront
c'est possible.
Pour réévaluer leur taxe foncière.
En tout cas, j'espère que de plus en plus de contribuables se poseront cette question.
Ouais.
C'est ce qu'on essaye de faire, de les informer, qu'ils sachent au moins qu'ils peuvent le faire.
Après, c'est ça.
Ils puissent décider s'ils veulent le faire ou pas. Mais qui peuvent le faire.
Savoir qu'ils peuvent le faire, en effet. Eh bien, merci beaucoup à vous deux pour cette émission passionnante sur la taxe foncière. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Carrément Immo. À la semaine prochaine.